Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé par Léa Capuano, Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre. Et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. Des millions de personnes célèbrent Nowruz cette semaine, fête millénaire et politique. Nous évoquons cette semaine quatre façons différentes de fêter le nouvel an persan, que ce soit en Iran, un an et demi après le début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, que ce soit chez les Kurdes, que ce soit en Afghanistan où les talibans ont interdit cette fête pré-islamique. Aujourd'hui, Nowruz chez les diasporas, une autre idée de l'Iran.
Les Iraniens se réunissent en famille avec des proches pour la cérémonie de Nowruz. Nous sommes les Iraniens expatriés, nous sommes loin de nos familles pour fêter le réveillon. Donc on se réunit ici comme une grande famille.
Je suis ici depuis 40, 50 ans même, mais je n'ai jamais oublié la date du nouvel an iranien. Nous célébrons toujours Nowruz. Ça me rappelle ma jeunesse quand mes parents nous donnaient des étrennes. Et si vous me donniez 50 pounds en cadeau?
Je vais vous dire, tout ce que nous faisons ici, c'est pour soutenir le peuple d'Iran. Il y avait toujours ce concept de prise d'otages, de terroristes et de ce que la télévision renvoyait comme image de là-bas. Et maintenant que les femmes d'Iran ont rendu aux Iraniens leur fierté, les gens le disent, je suis iranien, donc ça n'a plus rien à voir.
Ils vivent à Los Angeles, à Toronto, Berlin, Paris, Londres. En septembre 2022, après la mort de Mahsa Amini, ils ont suivi jour après jour, heure après heure, la révolte qui a fait passer des dizaines de milliers d'Iraniennes et d'Iraniens du « je » au « nous ». Ils ont fait défiler sur leurs écrans des photos, des vidéos, des voix et des fragments de lutte, suivis à distance mais dans leur chair, cette révolution de l'année 1401, comme l'appelle la chaîne Iran International, suivie par les Iraniens du monde entier. Si celles et ceux de la diaspora ne vivent pas la même année, selon que leur calendrier est égyrien ou grégorien, le nouvel an persan, Nowruz, est célébré partout, partout où se sont fixées des générations successives d'Iraniens fuyant la monarchie du Shah d'abord, puis la République islamique que pour certains, ils avaient contribué à faire advenir, mais dont ils ne pensaient pas qu'elle prendrait ce visage. Alors, quelles que soient leurs convictions politiques, leur région d'origine ou leur âge, les Iraniens de l'étranger se sont massivement mobilisés pour crier « femme, vie, liberté », des mots qui ne réduisent pas la pensée mais qui ouvrent une perspective qui la déborde, comme vous l'écrivez dans votre livre. Bonjour Shorama Karemi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, de la violence et des migrations. Vous avez donc écrit ce livre « Femme, vie, liberté », écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran, paru l'année dernière aux éditions La Découverte, et vous faites des recherches sans cesse renouvelées sur les diasporas iraniennes de Toronto à Stockholm et de Berlin à Londres. Nous sommes également avec Amin Mogadam. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes chercheur à l'Université métropolitaine de Toronto, à la chaire d'excellence en migration et intégration. Merci également d'être avec nous pour parler de ces diasporas iraniennes. Vous connaissez bien celles de Toronto, mais pas seulement. Également les diasporas iraniennes à Dubaï et partout dans le monde. Alors, l'un et l'autre, Shorama Karemi, Amin Mogadam, depuis le temps que vous êtes, que vous fêtez peut-être aussi l'un et l'autre Nowruz hors de votre Iran natal, est-ce que cette fête a la même saveur aujourd'hui, les mêmes couleurs que la fête de votre enfance, le Nowruz de votre adolescence, Amin Mogadam?
Évidemment, ça a changé. C'est-à-dire, en Iran, moi j'étais en famille, je suis parti à 17 ans, donc il y a plus de 20 ans de Téhéran, donc je viens de Téhéran. Et en Iran, on avait souvent l'habitude avec ma famille d'aller au bord de la Caspienne. C'était dans les années 80, des années noires, un peu de l'histoire contemporaine iranienne. Mais Nowruz était toujours un moment festif, un moment où... on se réunissait. Quand je suis arrivé en France pour mes études, ça a changé parce que je suis arrivé seul. Donc évidemment, je fêtais pas Nowruz avec ma famille, avec des amis. Donc ça devenait aussi plus festif parce que on était des immigrés en France et donc on se réunissait. C'était un moment pour se souvenir du passé, mais aussi parfois c'était un défi parce que vous voyez, par exemple, je suis sûr que vous en avez parlé cette semaine de ces sept symboles objets qui symbolisent Nowruz. Il y avait toujours ce défi de trouver les éléments, mais on devient créatif aussi quand on est dans la diaspora, c'est-à-dire on est moins orthodoxe, on fait les choses différemment.
On prend pas spécialement des aliments qui commencent par un S, c'est ça le haftarsin, c'est ça. Shora Makaremi, et quant à vous, vos souvenirs d'enfance et aujourd'hui la façon dont vous le fêtez?
Oui, en effet, les souvenirs d'enfance de Nowruz. Donc moi, j'ai quitté l'Iran à l'âge de 6 ans et quand j'étais petite, je me souviens de fêtes extrêmement colorées et vivantes. C'est-à-dire que il y a tout plein de gâteaux qui n'existent pas à d'autres moments de l'année. Il y a ces lentilles ou ces blés germés qui sont partout chez tous les commerçants, que tout le monde fait fleurir. Et puis il y a les poissons rouges qui se vendent. Enfin, il y a quelque chose
de poissons rouges. Pourquoi?
Oui, alors parce que à la table du Hafsin, il y a aussi des poissons rouges et donc souvent on a un poisson rouge dans un bocal et notamment si les gens veulent se représenter de l'ambiance de Nowruz avec tout ce côté aussi, on achète des vêtements nouveaux. Enfin, c'est extrêmement ritualisé et c'est un temps social. C'est-à-dire que ce sont les vacances scolaires et c'est il y a abondance matérielle dans les rues un petit peu avant Nowruz, de façon moins consumériste. Enfin, à l'époque que c'est le cas peut-être autour de Noël, mais il y a le film de Jafar Panahi, Le Ballon Blanc, qui raconte justement l'histoire de deux enfants qui veulent un joli poisson rouge bien dodu pour leur table de Nowruz. Et ça correspond également au souvenir que j'en ai, et aussi ces poèmes que l'on lit, donc le Fol, soit avec le Coran, soit avec Hafez. Il y a beaucoup de familles qui font ça avec le poète Hafez, et on va lire un poème qui va un petit peu nous annoncer la couleur de ce qui nous attend dans l'année à venir, sachant que Nowruz, vous avez dû déjà le dire, mais le passage à l'équinoxe de printemps n'est pas le même chaque année. Et donc là, par exemple, cette année, il était 6 heures en Iran, il était 4 heures en France, et donc il était impossible d'appeler nos familles. Et c'est ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que aujourd'hui, on peut passer Nowruz sur Skype ou sur WhatsApp complètement en lien avec les siens en Iran, toute la soirée, en laissant comme ça, il y a beaucoup de familles qui le font, hein, en laissant les réseaux sociaux nous connecter avec les nôtres, alors qu'à dans les années 80, bien sûr, il fallait se déplacer au bureau de poste pour pouvoir appeler avec une ligne téléphonique.
Aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux aussi que se construit cette société iranienne, comment dites-vous déjà dans votre livre, une société iranienne transnationale, pardon, et aussi pour fêter Nowruz, avec peut-être un décalage. Amin Mogadam, vous qui l'avez fêté Nowruz et en France et à Toronto où vous vivez aujourd'hui, un décalage dans la façon de le faire. J'ai l'impression en tout cas qu'en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus expansif la façon de célébrer ce passage au Nouvel An persan.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on a parlé en 2015, on a publié un numéro sur la diaspora iranienne pour la revue Homme et Migration. On a parlé des diversités et des diasporas iraniennes, justement parce que cette diaspora, elle s'est construite dans le temps avec des modalités de formation qui sont différentes en fait d'un pays à l'autre. Ne serait-ce que parce que les pays d'accueil et d'installation ont des politiques d'accueil différents et qui ont aussi influencé la formation de cette diaspora, avec des temporalités différentes aussi. C'est-à-dire, il y a des Iraniens qui sont partis dans les années 80, 90, et puis jusqu'à aujourd'hui. Cette diversité-là, on la voit aussi dans le contexte nord-américain que vous venez de souligner. Elle est très importante, puisque, par exemple, au Canada, où j'habite actuellement, les politiques migratoires canadiennes ont continué à accueillir des Iraniens de manière régulière. Il y a des Iraniens qui arrivent tous les jours avec des statuts différents aussi, avec un système de points qui valorise les compétences linguistiques, les compétences, le niveau de qualification, mais aussi d'autres qui arrivent avec le statut de réfugié. Et donc, en fait, par exemple, à l'échelle de la ville de Toronto, en fonction des quartiers où habitent les Iraniens, il y a des pratiques différentes, il y a des formes de revendications aussi très différentes. Par exemple, dans les les banlieues de Toronto où ce sont des familles qui sont installées en opposition, par exemple, au centre-ville où il y a beaucoup d'étudiants iraniens et donc les festivités sont différentes.
Avec aussi, dans certaines rues de Toronto, des défilés de drag queens. Pour Nowruz, c'est une communauté LGBT, enfin la communauté LGBT d'Iran exilée aux États-Unis qui organise ce genre de choses. Donc avec la diaspora fête et se représente Nowruz de façon très différente selon où elle vit, selon son histoire, selon l'année où elle s'y est installée par ailleurs. Shora Makarami, est-ce que Nowruz est davantage, autant ou moins suivi que le Ramadan chez les Iraniens en exil? Alors c'est toujours difficile de parler de façon générale.
Ah oui, je serais incapable de dire les choses de façon générale, mais je pense qu'il y a une grande laïcisation, enfin déjà de la population iranienne en général depuis, paradoxalement, depuis l'arrivée au pouvoir de la République islamique, mais en plus au sein des diasporas, Amine l'a souligné, il y a ce phénomène de classe moyenne globale qui, avec beaucoup de migrations qui sont soit des exils politiques, soit des migrations étudiantes ou ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, des migrations de travail qualifiées. Mais je pense qu'on ne peut pas faire de généralisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une migration de ce qu'on appelle les travailleurs sans papier aujourd'hui, qui sont qui viennent des classes populaires en Iran et aussi des Afghans qui ont grandi en Iran et qui vont poursuivre leur voyage et passer par la route des Balkans, ces routes extrêmement dangereuses où beaucoup meurent en fait, également la frontière turco-iranienne extrêmement létale, passer ensuite par la Grèce, faire tout ce parcours-là en bateau. Et donc ces groupes-là sont des diasporas iraniennes aussi quelque part, même si elles sont afghano-iraniennes, mais je pense que leurs pratiques sont totalement différentes.
Et ces Iraniens sans papier qui n'apparaissent dans aucune étude sociologique ou en tout cas aucune étude de sondage, notamment celle-ci qui dit que 27% des Américains iraniens se déclarent musulmans aujourd'hui, ce qui est donc bien moins que les années passées. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquent pas le Ramadan. Par ailleurs, le Ramadan déborde de la pratique religieuse très souvent, mais Nowruz reste très très fêté. Est-ce qu'il est possible, Amin Mogadam, de rentrer en Iran pour les Iraniens de la diaspora précisément pour ces 13 jours de fête, ces 13 jours chômés en Iran?
Une partie des Iraniens a toujours la possibilité de rentrer en Iran, et puis une grande partie, évidemment, avec la situation actuelle, notamment depuis le mouvement Femme, Vie, Liberté, avec les politiques d'otages de la République islamique. Il y a beaucoup d'Iraniens aussi qui craignent le retour en Iran. Toutefois, il faudrait se rappeler que, par exemple, notamment au Canada, parce que des relations économiques sont très importantes entre le Canada et l'Iran, il y a beaucoup de circulation d'argent entre les deux pays. Si vous allez dans les quartiers iraniens de Toronto, les enseignes les plus importantes que vous retrouverez dans ces quartiers, ce sont les bureaux de change. Étrangement, vous pouvez même utiliser, si vous avez les cartes bancaires iraniennes, des banques iraniennes, vous pouvez encore les utiliser dans ces enseignes en Iran pour retirer de l'argent. Et donc, en fait, il y a quand même des relations d'interdépendance économique très important, qui participe aussi du coup aux stratégies, aux économies, je dirais, des individus et des membres de la diaspora iranienne, dans la manière dont ils souhaitent ou pas prendre des risques ou s'exprimer pour retourner en Iran. Les politiques d'otages et la manière dont la République islamique a utilisé l'otage des binationaux iraniens a joué un rôle important pour que les Iraniens n'aient pas envie de retourner en Iran.
Il y a d'ailleurs, entre parenthèses, mais on en parlera plus longuement tout à l'heure, beaucoup de dissensions à Toronto au sein de la diaspora iranienne, beaucoup qui accusent d'autres d'être proches du régime iranien, et ça nous permettra de rappeler comment cette diaspora iranienne s'est constituée entre guillemets, ouais, la stratification plutôt que couches successives, c'est beaucoup plus joli. Peut-être un mot, Amin Mogadam, sur cette plateforme. Aujourd'hui, le gouvernement iranien a mis en place une plateforme un peu pour rassurer tout le monde et dire, regardez, vous pouvez vérifier vous-même si en venant en Iran, vous risquez quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme ?
Oui, à chaque fois qu'il y a une crise politique en Iran, ou notamment aussi ces problèmes d'arrestation des Iraniens en Iran, la République islamique essaie de regagner la confiance des membres de la diaspora iranienne, notamment parce que les Iraniens, une partie des Iraniens à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada, ont un pouvoir économique important, et donc les dirigeants iraniens essayent de rétablir des relations avec les membres de la diaspora. Mais regagner la confiance de la population iranienne en dehors de la diaspora serait extrêmement difficile pour la République islamique aujourd'hui. J'ai entendu que 10 000 personnes se sont enregistrées, en tout cas ce sont les données de ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères iraniens. 10 000 Iraniens qui se seraient enregistrés sur plus de 5 millions, c'est pas beaucoup.
Shora Makarimi.
Oui, pour revenir sur cette question de la confiance, je pense que c'est absolument essentiel parce que ce qui est très important pour la façon dont le régime a toujours fonctionné, qui n'est pas uniquement par la coercition, c'est-à-dire pas uniquement par la force des armes, mais aussi par toute une série d'intimidations ou de façons de conduire les conduites, c'est-à-dire d'influencer les gens. Le fait de s'auto-censurer pour se préserver les conditions de possibilité d'un retour éventuel au pays, surtout pour des gens qui ont des parents âgés, par exemple. Tous ceux qui se sont exilés après 2009, ou toute cette fuite des cerveaux dont on parle, sont des gens qui ont des familles parfois dépendantes d'elles et eux en Iran. Et donc, le fait de s'auto-censurer pour pouvoir revenir éventuellement participe de cette économie des lignes rouges dont je parle, par lesquelles les frontières de l'espace politique, là où il ne faut pas aller, ce qu'il ne faut pas dire, etc. Et donc, par exemple, le fait de s'opposer frontalement, comme ça a été le cas, eh bien, deviennent des frontières nationales. Et c'est vrai que c'est très important pour la République islamique de retisser, en fait, de reconstruire ces frontières parce qu'elles ont été ébranlées en 2022.
Elles ont été ébranlées en Iran, chez les Iraniens et les Iraniennes qui ont manifesté contre le régime, mais aussi au-delà, dans cette diaspora qui, jusqu'à présent, Shora Makarimi, disiez-vous, essayait, enfin certains, de préserver ce qu'ils pouvaient préserver, ne serait-ce que pour leur famille restée au pays. Ces lignes rouges ont été déplacées quand on a entendu un encouragement à voix haute de milliers de voix à des milliers de kilomètres qui se sont élevés pour crier leur soutien à tous ceux qui protestaient dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ici, c'était à Berlin.
Nous vivons en Hollande et nous sommes venus ici juste pour cette journée. C'est tellement important pour nous d'être ici, d'être la voix du peuple d'Iran qui va être tué dans les rues. Et ce n'est plus une manifestation. C'est une révolution en Iran. Enfin, nous avons cette chance et nous voulons l'utiliser pour montrer au monde que nous ne voulons pas de ce gouvernement, nous voulons le changer. Notre objectif, notre destin est donc le même. Aujourd'hui, nous voulons le crier ensemble.
Manifestation de soutien à Mahsa Amini à Berlin qui a réuni 80 000 personnes peu de temps après la mort de cette jeune iranienne kurde. Où vous étiez à Berlin, Shora Makarimi, vous étiez allée plusieurs fois aussi dans le cadre de vos travaux et de vos recherches dans la diaspora iranienne ou les diasporas iraniennes. Est-ce que c'était une évidence de soutenir ce mouvement?
Oui, surtout que pour deux raisons. D'une part, pour sa dimension profondément intersectionnelle, on va dire, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, mais parce que dans ce mouvement se rejoignaient différents mouvements, différentes impulsions qui avaient été données à des moments différents par des groupes différents. Et donc là, il y avait quelque chose de l'ordre de qui se nouait et qui était extrêmement intéressant à suivre. D'autre part, il y avait une façon de renouer avec un récit de la pré-révolution dans ce mouvement-là et une façon de remettre en cause en fait le discours du pouvoir iranien qui jusque-là n'avait pas vraiment eu lieu et donc pour moi c'est quelque chose d'extrêmement neuf et qui correspondait à un travail de plus long terme que je mène depuis plus de 10 ans. Donc oui, en effet.
Par exemple, cet homme, Ahmed Esmaïlioun, donc vous expliquez dans votre livre que c'est lui qui a organisé cette grande manifestation à Berlin. Qui est-il? Alors on sait que c'est un dentiste iranien installé au Canada, mais pourquoi cette figure-là a réussi, semble-t-il, vu de loin, vous allez nous confirmer si c'était le cas ou pas, mais il semble qu'il avait vraiment réussi à donner cette impulsion-là. Qui est-il?
Alors, était devenu, en effet, c'est un des co-organisateurs, mais c'est une figure qui a beaucoup rassemblé à un moment donné. Il est représentant des familles de victimes du vol PS752, qui est un vol, justement, quand on parle de diaspora, un vol qui rassemblait énormément de ces Canadiens vivant à l'étranger, étudiants, travailleurs qualifiés, etc., qui rentraient chez eux après les vacances de Noël, donc par un vol Téhéran-Toronto qui passait par Kiev. Et donc c'est un avion ukrainien qui a été abattu par les gardiens de la Révolution au moment de la crise diplomatique extrêmement tendue qui s'était ouverte avec l'assassinat de Qassem Soleimani par un drone américain. Voilà, lors d'une de ses visites en Irak. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, pour revenir sur cette question des lignes rouges, c'est qu'à l'époque, il y avait des centaines de milliers d'Iraniens qui étaient descendus dans la rue lors des funérailles de Qassem Soleimani, figure de héros, et que le mouvement Femmes Vie Liberté a brûlé les photos de Qassem Soleimani et continué, même après que les manifestations se sont tues sous la force des armes, les gens continuaient dans les stades de foot ou parfois le long des boulevards d'aller lancer un cocktail Molotov sur un portrait de Qassem Soleimani pour bien dire on ne veut plus de cette figure-là, voilà, du patriotisme, du nationalisme et de l'impérialisme iranien dans la région. Mais donc le vol PS752, c'est un moment où il y a une demande de justice transnationale, du coup, puisque elle est portée par des familles qui vivent au Canada, elle est portée devant les tribunaux en Ukraine, puisque l'avion est ukrainien, contre le pouvoir iranien, et elle est portée aussi au tribunal en Iran. Donc là, c'est vraiment, on voit cette société iranienne transnationale. Et cette demande de justice rejoint plusieurs autres demandes de justice qui sont aussi portées souvent en exil, en écho avec ce qui se passe, avec les demandes des familles à l'intérieur, en réponse à des vagues successives de répression. Donc dans les années 80, au moment du massacre de 88, en 2009, il y a des mouvements de mères comme ça. Et puis le mouvement des familles du vol PS752 s'inscrit aussi dans ces mouvements qui lient ensemble la demande de justice, la demande de ce qu'on pourrait dire, en reprenant un mot américain, mais accountability, c'est-à-dire de responsabilité politique de la part des gouvernants. Donc c'est un peu un idéal démocratique. Donc lie cette demande-là à une demande finalement un plus profonde de changement de régime.
Donc avec aussi une expertise juridique qui s'est formée d'année en année. Cet homme, Ahmed Esmaïloun, il se bat pour connaître les raisons exactes de ce crash d'avion et de ces familles mortes. Sa femme et sa fille sont mortes dans ce crash-là. Mais c'est aussi toute une diaspora iranienne qui a développé une expertise et un savoir-faire aussi sur le droit international. Et ce sont eux, me semble-t-il, Shohram Akaremi, qui sont à l'origine des rapports du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies, qui parlent de crimes contre l'humanité au sujet de la répression qui s'est abattue sur les Iraniens et Iraniennes en 2022.
Oui, c'est ce que j'en parle brièvement dans mon livre, c'est que finalement, il y a cette grammaire, ce langage du droit international qui est utilisé et qui correspond à un certain nombre de carrières aussi qui se sont construites de juristes internationaux ou d'avocats internationaux, ou bien une façon de se mobiliser de la part des familles ou de ceux qui ont été victimes de violences passées. Il y a eu aussi un tribunal d'opinion à propos de la répression extrêmement sanglante des soulèvements de 2019, par exemple, qui a eu lieu à Londres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du fait de la diversité, de l'hétérogénéité, des divergences de vues au sein des diasporas, des différences des projets politiques, il y a une extrême difficulté à s'unir, à se réunir autour d'un projet commun, mais aussi autour d'un récit commun du passé et du présent. Et donc, le champ qui reste ouvert quand ces dissensions deviennent plus grandes, et il ne s'agit pas uniquement de divergences de vues, il s'agit aussi de culture de la suspicion propre, en fait, à des sociétés, même transnationales, qui ont vécu sous un pouvoir ou qui vivent sous un pouvoir autoritaire extrêmement puissant, comme c'est le cas, par exemple, de la société russe, et donc avec énormément de suspicion les uns envers les autres, mais parfois justifiée parce qu'il y a des pratiques d'infiltration, des pratiques de surveillance, etc.
Et donc dans la diaspora aussi, on se soupçonne beaucoup les uns les autres.
Sur les réseaux sociaux aussi et dans la diaspora aussi. Et donc en fait, le seul lieu, enfin l'espèce de lieu de refuge possible et disponible quand les suspicions et les divergences deviennent trop fortes, c'est justement ce champ un peu professionnel cadré par la grammaire du droit international. Et donc là, on a une société transnationale qui va investir le champ juridique, enfin des acteurs qui vont transnationaux qui vont investir le champ juridique et qui vont aider les rapporteurs de l'ONU qui ont rendu leur rapport à la faveur de la journée mondiale du 8 mars et qui ont en effet non seulement dit que en effet Mahsa Amini avait été tuée fort probablement par la police des mœurs, mais ont également qualifié les acteurs et les crimes commis par le régime iranien de crimes contre l'humanité en 2022-2023.
Une suspicion dont vous parliez assez généralisée dans les diasporas iraniennes, alors parfois de façon tout à fait justifiée. On sait par exemple qu'à Toronto se trouvent aujourd'hui des proches du régime iranien.
Morteza Talaei est l'un des commandants de police qui m'a envoyé en prison avec tellement d'autres étudiants. C'est terrible de voir qu'ils viennent au Canada en toute liberté. Ça me rend malade.
On ne peut plus le accepter. Si quelqu'un est proche du gouvernement, il faut payer. Il faut payer pour ça. C'est pour ça que les gens, ils décident de montrer leur colère.
Un témoignage, des témoignages recueillis par Radio-Canada. Amine Mogadam, vous vivez vous-même à Toronto. Est-ce que c'est une des raisons, parce qu'on vient d'entendre ces suspicions, une des raisons qui permettent d'expliquer que la coalition de l'opposition iranienne à l'étranger qui s'est mise en place après la mort de Mahsa Amini, il y a eu une sorte de mouvement assez collectif et unifié, finalement cette coalition n'a pas tenu. Pourquoi ?
Oui, c'est l'une des raisons pour laquelle cette coalition a échoué. Mais il faudrait aussi vraiment regarder, je crois, la politisation de la diaspora dans les relations d'interdépendance avec la société iranienne. Certaines de ces forces politiques, des acteurs, des personnalités, au moment de la création de cette coalition, ont pris une forme d'autonomie qui a donné cette impression que finalement, en fait, ils n'étaient pas tellement à l'écoute de la société iranienne. Mais je dois ajouter qu'il y a quand même un potentiel de coalition, d'unité au sein de cette diaspora. Et ce que Shora a souligné tout à l'heure sur la dimension transnationale, il a réussi, le Hamed Esmaelian à Toronto, à rassembler les Iraniens sur les sites très variés, depuis l'Australie jusqu'au Canada, en même temps avec une organisation vraiment impressionnante. Mais cette, même à l'échelle de la ville de Toronto, cette organisation a connu une fragmentation très rapidement, c'est-à-dire après une première manifestation qui a rassemblé plus de 50 000 personnes dans les banlieues de Toronto, et la géographie de ces manifestations, c'est aussi intéressant parce que ce ne sont pas des espaces habitués à ces formes de mobilisation. Deux ou trois semaines plus tard, on a commencé à voir des différentes manifestations à l'échelle de la ville même de Toronto, où ceux qui étaient plus monarchistes, par exemple, se réunissaient devant l'ambassade des États-Unis, le consulat des États-Unis à Toronto, avec des symboles monarchistes et qui, de facto...
Amine Mogadam ? Ah, on vous a perdu. On vous a perdu. Peut-être que Shora Makarimi, vous pouvez aussi revenir, parce que c'est vrai que pour comprendre ce qu'il était en train de dire, Amine Mogadam, qui connaît très bien la diaspora iranienne à Toronto, mais également ailleurs, mais pour comprendre comment ont réagi les diasporas du monde entier à ce printemps des peuples iraniens, l'expression est malvenue puisque c'était en septembre que tout a commencé, mais pourquoi ça a pris, entre guillemets, particulièrement certains endroits, c'est, il faut revenir sur l'histoire de ces diasporas iraniennes, la façon dont elles se sont construites par strates successives, et comprendre pourquoi Toronto, pourquoi Berlin, pourquoi Londres, etc.
Oui, c'est intéressant. Alors, il y a ce phénomène, dis-moi dans quelle ville tu habites et je te dirai quelle est ton histoire. On pourrait presque dire ça en schématisant énormément, hein, mais les vagues successives d'exil qui ont eu des objets différents, les anciennes élites qui sont parties un tout petit peu avant la révolution de 79 ou très peu de temps après, sont plutôt partis aux États-Unis par exemple, un petit peu à Paris également, à Washington, un peu à Los Angeles, et puis les exilés politiques qui étaient des révolutionnaires en fait de 79, mais des opposants à la République islamique, comme c'est le cas de ma famille par exemple. sont plutôt venus en Europe, notamment à Paris, à Londres. En Allemagne, les gauches se sont retrouvées en Allemagne, qui à l'époque c'était les deux Allemagnes, hein, le mur de Berlin existait encore. Je connais des gens qui, par exemple, se sont d'abord exilés, c'était avant l'Union Européenne, donc c'était compliqué de faire une relocalisation, mais se sont d'abord exilés à Paris, ont vu que le climat, selon leur dire, était trop individualiste, et donc voulaient continuer à militer au sein de groupes, de partis forts, et donc sont allés en Allemagne pour pouvoir continuer en fait leurs activités en exil, sachant que au départ, quand les gens s'exilaient, ils pensaient que dans 5 ans les choses seraient finies et qu'ils allaient revenir. Ils pensaient pas du tout que ça allait durer comme ça 40 ans, 45 ans. Les exils à partir des années 90, ces exils étudiants, ces exils qui sont du coup des va-et-vient, hein, qui dessinent tout ce réseau transnational, cette migration de travail qualifié en Australie, au Canada, aux États-Unis, à Londres. C'est la question de la langue aussi qui va beaucoup déterminé aux Pays-Bas. En 2009, il y a à nouveau une vague d'exilés politiques. Suite au soulèvement du mouvement vert de 2009, qui a été voilà exactement réformiste. C'est un mouvement le mouvement vert qui était pour le candidat réformiste Miroslav Moussavi et qui a été extrêmement réprimé à l'époque. Et les exilés qui se retrouvaient à New York notamment, à Londres, sont allés aussi nourrir tout ce groupe de journalistes et d'activistes qui ont été recrutés notamment par ces ONG de défense des droits de l'homme et par ces journaux, par ces chaînes de médias persanophones qui transmettent depuis l'étranger et qui ont eu un rôle de plus en plus important au sein de la société iranienne en Iran même.
Il y a plusieurs chaînes, on en parlera, chaînes qui diffusent dans des langues persanes, en persan, en farsi, et qui sont suivies à la fois en effet par la diaspora et en Iran même. Alors on peut faire une étape par Los Angeles, une ville qui a été celle des élites du régime du Shah, venues mettre et leurs avoirs et eux-mêmes à l'abri dès 1978, avant même la révolution islamique. Westwood Boulevard, par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment le quartier iranien.
C'est un peu la mise en valeur du mouvement dans le quartier, le cœur de Terangeles. On la garde ici en attendant que les gens renversent la République islamique. On a commencé avec les 7 photos de ces jeunes femmes tuées pendant la révolution des femmes en Iran. Ça a commencé avec Massa, Hadis, Nikar, Razaleh et d'autres. Mais après, leur nombre a tellement augmenté qu'on a dû s'arrêter. Mais on la garde comme symbole de la révolution.
Iran, comment est-ce qu'on dit Iran-Geles ou Terangeles, voilà, pour parler de Los Angeles. Amine Mogadam, on vous a retrouvé, on était en train de parler des différentes, de la stratification de la diaspora iranienne dans le monde entier. Alors, juste peut-être un mot, parce que vous expliquez dans vos travaux qu'il y a aussi une nouvelle destination pour de nombreux Iraniens, c'est l'Asie, et notamment la Malaisie. En Asie, pourquoi la Malaisie ?
C'est notamment lié aux relations diplomatiques importantes que l'Iran avait avec la Malaisie, qui a permis aux étudiants iraniens de partir en Malaisie et puis éventuellement s'installer en Malaisie. C'est une présence iranienne, je pense qu'on ne pourrait pas parler encore d'une diaspora iranienne, d'une communauté importante. C'est une diaspora, une présence importante qui est surtout liée aux mobilités estudiantines. En parlant de l'Asie, je voudrais aussi parler des mobilités régionales iraniennes, c'est-à-dire le déplacement des Iraniens dans l'environnement régional de l'Iran, comme en Turquie ou aux Émirats Arabes Unis. Et les formes de politisation, justement, dans ces pays sont différentes, ne serait-ce que parce que le système politique et les politiques migratoires dans les pays comme aux Émirats Arabes Unis ou en Turquie sont très différents. Donc les Iraniens, ils n'ont pas la liberté de s'exprimer comme ils peuvent le faire, par exemple, en Europe, où ils peuvent obtenir la nationalité des pays d'installation ou aux États-Unis. Et donc, ils sont aussi, ces espaces de politisation deviennent aussi très intimes, c'est-à-dire ils ne peuvent pas s'exprimer dans l'espace public. Et c'est pas pour autant qu'ils ne se positionnent pas, par exemple, vis-à-vis de la République islamique. Alors, mais aux Émirats Arabes Unis, par exemple, que j'ai étudié en particulier, toute manifestation politique est interdite, en fait, dans l'espace public. Les Iraniens ne peuvent pas obtenir la nationalité émirienne, et donc ils ils prennent vraiment pas le risque de s'exprimer en public parce qu'ils peuvent être obligés de retourner en Iran.
Alors maintenant, quels sont, pour ceux qui peuvent s'exprimer, pour ceux qui peuvent témoigner de leur conviction politique, quelles sont aujourd'hui les différentes visions de l'avenir, vision de l'Iran et de l'avenir de l'Iran portées par ces diasporas? Shora Makaremi, est-ce que beaucoup ont encore un lien aujourd'hui avec l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, cette organisation qui s'est d'abord opposée au Shah avant de s'opposer à la République islamique, parce qu'on a vu beaucoup de ces drapeaux dans les manifestations depuis 2022, et ça vous a d'ailleurs surprise dans un premier temps.
Oui, alors c'est pas uniquement le drapeau des Moudjahidines du peuple, c'est, je parlais du drapeau du lion et du soleil. Alors,
sans la couronne.
Voilà, donc le drapeau iranien, c'est un drapeau vert-blanc-rouge avec au milieu le sigle Allah en noir. Donc ça, c'est le drapeau de la République islamique. Le drapeau de l'époque du Shah, c'est le lion et le soleil, le lion est couronné, et il y a un drapeau avec où le lion n'est pas couronné, et donc ça, c'est en effet, c'est le drapeau qui est repris par les Moudjahidines du peuple, mais c'est aussi le drapeau qui est repris en fait, et ça, ça a été une grande surprise pour moi en effet, en 2022, de voir que c'était un drapeau qui était largement repris, alors que pour moi, il avait une coloration, une imprégnation politique extrêmement puissante. En fait, de plus en plus de personnes, même à l'intérieur de l'Iran, de plus en plus d'Iraniens vont se revendiquer de cette identité-là, juste par opposition en fait à la République islamique. Mais par ailleurs, en effet, il y a un phénomène qui est intéressant et qui est vraiment, je pense, plutôt cantonné aux années 80, c'est la façon dont les groupes, les appartenances politiques on finit par faire identité, par faire famille pratiquement. Et donc on voit comment est-ce que il y a des familles, des parentèles entières en fait, des parentées entières qui sont liées à un projet politique d'un groupe d'opposition, que ce soit les Fedayeen-e Khalq, que ce soit les Moudjahidines du peuple. Bon, les Moudjahidines du peuple ont un fonctionnement un peu plus sectaire, beaucoup plus disciplinaire, etc. Donc c'est beaucoup plus facile à repérer. Et ils ont une organisation extrêmement explicite. Mais on a ce phénomène aussi par les mouvements de mer, les mouvements de proches de victimes, qui fait que les projets politiques alternatifs qui ont tous participé de cette espèce d'ébullition de laboratoire politique qui était l'Iran des années 70-80, début des années 80, et sont devenus des formes d'identité qui se sont petit à petit solidifiées, cristallisées en exil.
Que reste-t-il, Amin Mogadam, de la nostalgie de la monarchie, l'âge d'or perdu, comme certains en parlent aujourd'hui? Alors peut-être que beaucoup ont perdu réellement des biens, notamment pendant pendant la République islamique. Mais qui aujourd'hui pour défendre une restauration de la monarchie, qui pour défendre au contraire un projet totalement différent, puisque Reza Pahlavi, l'héritier du Shah, le fils du Shah, continue à porter un projet, mais de quelle monarchie aussi, c'est une autre question.
Oui, je pense qu'il faut comprendre la popularité des monarchistes aujourd'hui, parce que c'est un fait, qu'on le veuille ou pas, le prince héritier est très populaire, son mouvement a beaucoup de soutien, et je pense qu'il faut mettre en perspective avec l'évolution de la République islamique. Il faut se rappeler que la République islamique a 45 ans et qu'elle a évolué dans le temps. Il y a eu des mobilisations importantes à des périodes importantes de l'histoire de la République islamique où les Iraniens ont cru aux élections présidentielles. Ils se sont mobilisés pour voter au mouvement des réformes. Et tous ces mouvements ont échoué. Et ce retour, cette nostalgie à la période monarchiste s'explique aussi par l'échec des mouvements politiques à l'intérieur par les mouvements au sein, les différents groupes politiques au sein de la République islamique qui ne laissent le choix à beaucoup d'Iraniens que revenir à la monarchie de l'avant révolution. Et ce retour à la monarchie se matérialise aussi dans les manifestations iraniennes, y compris par exemple pour Nowruz, où on met en scène la Perse, l'Empire Perse, on valorise par exemple le cylindre de Cyrus, le fondateur de l'Empire Perse. Et donc il y a toute une matérialité qui est liée à ce sentiment nostalgique. Mais ce sentiment nostalgique, parce qu'il y a eu des lectures, il y a une dizaine d'années, notamment parmi nous les chercheurs, où on parlait souvent de cette reproduction conservatrice de l'Iran de l'avant-révolution. Je pense qu'au contraire, il y a des formes d'autonomie, il y a des formes de créativité au sein de ce retour, au sein de ces sentiments nostalgiques et ces formes de matérialisation qu'on voit dans les manifestations. Dans le même restaurant où on met en scène, pour vous donner un exemple, l'Empire perse, on met les drapeaux monarchistes, les communautés LGBTQ ont négocié pour organiser un événement sur les droits des communautés LGBTQ dans le même restaurant. Il y a une association à Toronto qui s'appelle CIMOR qui essaie d'aider les demandeurs d'asile iraniens qui sont bloqués en Turquie. Donc il y a aussi des formes d'autonomie et d'agency qui s'expriment dans ces mêmes endroits qui a priori seraient une forme de reproduction du passé.
Et une grande diversité dans les positions. On évoquait tout à l'heure, vous évoquiez Shorama Karemi, les médias persanophones qui diffusent depuis l'étranger, qui sont très suivis et par la diaspora et par les Iraniens. Il se trouve que certains ont un projet précis, construisent aussi un discours qui présente notamment le fils du Shah comme l'alternative politique la plus viable à la République islamique. Là, c'est Iran International qui est financé par l'Arabie Saoudite. Est-ce que c'est le cas de tous ces médias ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tous les regarder en ayant en tête qu'ils ont un projet politique précis ?
Bah, je pense que de toute façon, dans l'économie médiatique dans laquelle on vit aujourd'hui, il n'y a pas de médias à proprement neutre, c'est-à-dire par les financements, par les systèmes de production de l'information, on est de toute façon chaque média est porteur de projets. Et par exemple, si on prend la BBC qui a une perspective a priori beaucoup plus comme ça plutôt réformiste mais assez neutre, etc.
Et qui a mené plein d'enquêtes et contre-enquêtes d'ailleurs sur plein les
Iran International aussi. Alors sur le côté en fait journalisme, alors la BBC de façon un peu plus on va dire professionnelle ou plus outillée, mais et elle mettait plus longtemps à mener ces enquêtes de contre-investigation qui étaient très importantes parce qu'elles permettaient de certifier en fait la provenance de toutes ces vidéos qui circulaient. Mais il y a à la fois un savoir-faire, un professionnalisme journalistique, et puis aussi le fait que, bah, par exemple, la BBC, c'est un média public qui est en lien avec aussi le ministère des Affaires étrangères britannique. Donc, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a aucun média qui serait comme ça tombé du ciel totalement neutre. Mais il est vrai qu'à chaque fois, ces médias-là ont le pouvoir, en fait, de construire des discours hégémoniques. Et c'est ça qui, je pense, est important, parce qu'on a vu se mettre en place la production de discours hégémoniques qui justement venait de l'intérieur et qui participait à la constitution de cette société iranienne transnationale dont je parlais.
Alors, éteignons pour l'instant nos postes de télévision. Ceci, même si beaucoup ont mené de très longues enquêtes et contre-enquêtes sur certaines morts de jeunes femmes principalement qui étaient parties manifester un matin et ne sont jamais rentrées en Iran. Et il y a aussi d'autres voix qu'on peut entendre qui résonnent dans les manifestations des Iraniens de la diaspora, comme celle de Marjane Farsad. دوره دوره پشت کوها یه صبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ی ماست اون بر آب اون بر موجا سرفه توی رویاست توی خواب پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور باقای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اون بر دلتنگی ماست ته جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما Marjane Farsad, chanteuse irano-canadienne qui était présente dans le grand rassemblement à Berlin dont nous parlions tout à l'heure, qui a chanté ces mots et cette ballade Rouneyema, est connue et reprise par tous les Iraniens dans les manifestations qui ont lieu depuis septembre 2022. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur Nowruz, une fête politique. Aujourd'hui, Nowruz pour les Iraniens de la diaspora. Nous en parlons avec l'anthropologue Shoram Akaremi et Amin Mogadam, chercheur à l'université métropolitaine de Toronto. Toronto où se trouve aussi le cinéaste iranien Alireza Ratami.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans leur film Chronique de Téhéran, sorti la semaine dernière dans les salles françaises, les réalisateurs Alireza Ratami, iranien vivant au Canada, et Ali Asghari, qui lui vit toujours à Téhéran, ont tourné 9 courtes scènes, 9 plans fixes qui mettent aux prises leurs personnages avec l'absurdité des règles imposées par le régime et avec les abus de pouvoir. Tout a été tourné en Iran. Alireza Ratami y joue son propre rôle face à un agent du ministère de la Culture que l'on ne voit pas mais sans qui rien n'est possible.
Vous ne pouvez pas tuer le père dans votre scénario. Monsieur Chegini, le titre c'est les choses qu'on tue. Alors comment ne pas tuer le père? Le titre aussi pose problème, il faut le changer. De la Grèce antique à nos jours, l'histoire du parricide a été racontée. C'est dans Oedipe, c'est dans Hamlet. Oui, je sais tout ça. Le problème, c'est que vous comparez la culture irano-islamique à la culture occidentale. On essaye d'arrêter l'hégémonie de la culture occidentale. Non, vous arrêtez mon film, pas l'Occident.
Bonjour Alireza Ratami.
Good morning. Thank you for having me.
Thank you very much for being with us. Vous jouez vous-même un réalisateur essayant de convaincre un agent du ministère de la Culture de le laisser tourner son film en Iran. Dans la réalité, comment avez-vous obtenu une autorisation de tournage?
We did not get permission to shoot. This was shot entirely without permission.
Nous n'avons pas reçu de permis de tourner. Tout a été tourné sans autorisation, mais nous avons juste décidé d'y aller et de tourner. En fait, je ne pense pas que faire un film doit faire l'objet d'une autorisation. Nous ne cédons pas à ce genre de réglementation. Nous avions essayé d'avoir une autorisation pour le film précédent, Things That You Kill, et nous ne l'avions pas obtenue. Là, nous nous sommes lancés dans un film complètement différent, Terrestrial Verses, en français, Chronique de Téhéran, titre vraiment stupide d'ailleurs, mais que le distributeur a choisi sans notre accord, malheureusement. Et donc, ce titre, Terrestrial Verses, a été tourné en Iran, sans autorisation.
Vous avez, pour des précédents films, essayé d'obtenir des autorisations pour tourner en Iran. À chaque fois, quel genre de discussion cela a occasionné avec les agents du ministère de la Culture iranien ou peut-être d'autres personnes des services administratifs?
Part of that discussion you see in the movie, this is the kind of discussion you have.
Une partie des dialogues auxquels on assiste dans le film, c'est bien le genre de discussion que l'on peut avoir avec eux. Vous savez, ils veulent protéger certaines règles existantes ou qu'ils considèrent comme telles, et ils protègent certains aspects religieux et politiques, mais un peu en fait comme n'importe quel régime politique.
I'll give you an example of France, for example. The movie, Anatomy of Fall,
prenez l'exemple de la France avec Anatomie d'une chute, qui est selon moi l'un des meilleurs films français des 20 ou 30 dernières années.
And the director spoke,
la réalisatrice a critiqué le ministère de la Culture lorsqu'elle a reçu la Palme d'Or, et le film n'a ensuite pas été retenu pour concourir aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger, ce qui est honteux. Et tout le monde dans le milieu français du cinéma savait que c'était une décision politique, même si en apparence on pouvait dire « Ah, mais c'est le comité de sélection qui a décidé », etc. C'est l'un des meilleurs films français de la dernière décennie, et il aurait absolument dû faire la course aux Oscars. Donc, vous voyez, les négociations avec les arcanes du pouvoir ne sont pas réservées à l'Iran ou aux pays perçus comme peu démocratiques. La négociation avec le pouvoir en place, ça existe tous les jours, partout dans le monde. S'il y a au moins une chose que l'on peut retenir de Michel Foucault, c'est que, où que vous soyez, vous êtes soumis à un pouvoir et vous exercez un pouvoir sur autrui. Et n'importe quel citoyen a l'obligation, le devoir de trouver un moyen de négocier avec ce pouvoir.
C'est ce que l'on voit d'ailleurs dans votre film, tous les personnages, de la petite fille qui accompagne sa mère dans une boutique de vêtements parce qu'elle doit porter une tenue traditionnelle, à la vieille dame qui cherche son chien dans tous les commissariats de la ville parce que deux policiers lui ont pris son chihuahua en vertu d'une loi qui interdit de promener son animal dans les espaces verts, en passant par ce jeune père qui veut appeler son fils David. Tous essayent de négocier avec les règles imposées et parfois les abus de pouvoir auxquels ils doivent faire face au quotidien.
What we wanted to show is that in English we call these type of regimes totalitarian regimes.
Ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'en fait, lorsque l'on parle de régime totalitaire en anglais ou en français, le mot totalitaire veut dire avoir un contrôle total ou contrôler la totalité du système. En farsi, on utilise le terme tamamiyatra, qui veut dire désir de totalité. Et donc le farsi indique bien qu'aucun régime ou pouvoir ne peut complètement tout contrôler. Ces régimes souhaitent avoir un contrôle total, mais ce contrôle en fait ne peut jamais être absolu. Il y a toujours des trous dans les mailles du filet, et le rôle des citoyens est de tirer dessus et d'y trouver un petit espace de liberté, d'intimité et de libre arbitre.
Vous avez donc tourné en Iran et sans autorisation ces 9 scènes, presque 9 courts-métrages qui en forment un long, et dans des petits espaces, un magasin de vêtements, le bureau d'une directrice d'école, un commissariat de police, toujours pris en plan fixe. Et dans chaque scène, celui ou celle qui représente l'autorité ou les autorités iraniennes est toujours hors champ. Est-ce que c'était important pour les acteurs de rester cachés, que personne ne les voit? Comment vous avez tourné avec ces acteurs?
Nous leur avons dit que nous faisions un court-métrage. Nous en avions pris toute la responsabilité. Vous savez, en Iran, pour tourner un court-métrage, vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous pouvez tourner un court-métrage et c'est tout. Alors, quand on demandait aux acteurs « Pourquoi vous jouiez dans ce film ?», ils répondaient que c'était un court-métrage et c'est totalement le cas. Personne ne savait que nous faisions un long métrage.
Le fait que vous ne viviez plus en Iran, est-ce que vos interlocuteurs sur place en Iran, quand vous allez les voir, disent que vous êtes peut-être mal placé pour le comprendre aujourd'hui ou pour en parler?
Le ministère de la Culture ne me fait pas ce genre de reproche, il n'insiste pas là-dessus. En revanche, c'est une exigence que j'ai envers moi-même. Je me rappelle toujours que je ne vis pas en Iran et que je ne saisis pas la réalité de ce pays de la même manière que quelqu'un qui y vit. Et c'est pour cela que je ne tourne jamais de films sur l'Iran ailleurs qu'en Iran. C'est une idée que je récuse complètement. Je ne l'ai jamais fait et je n'aime pas du tout les cinéastes qui essayent de parler de l'Iran en tournant leurs films en Jordanie ou je ne sais pas, au Maroc ou ailleurs. J'ai toujours dénoncé ces gens qui ne parlent quasiment plus le farsi après des années à l'étranger, mais qui pourtant essayent de parler de l'Iran. Et je me suis toujours promis que si je tournais un film sur l'Iran, ce serait sur place et en travaillant avec des personnes qui y vivent et qui comprennent ce pays. Le ministère de la Culture, tout ça lui est un peu égal. Ce n'est pas une énorme menace politique pour un régime aussi puissant, vous savez. C'est juste un film, ils le savent. Juste un petit film de rien du tout. Pas la peine de se prendre la tête pour si peu. Donc bon, ils ont gardé le passeport de mon collègue pendant quelques mois, et puis ils nous ont appelés pendant ces quelques mois, et puis ils lui ont rendu son passeport. Le risque, en fait, c'est la perte de revenus pour nos collaborateurs sur place. On leur a interdit parfois de travailler, par exemple. Mais tous nos acteurs savaient que s'ils travaillaient pour nous, ils auraient des problèmes, et nous n'avons menti à personne, vous savez. Ils savaient bien que je ne venais pas pour tourner une comédie romantique et applaudir le régime. Le film allait évidemment être une critique de la situation. Mes acteurs le savaient et je leur suis infiniment reconnaissant d'avoir pris la décision courageuse de nous aider à faire ce petit film.
Merci beaucoup Alireza Ratami. Chronique de Téhéran, votre film dont vous récusez le titre, on l'a bien compris, est en salle néanmoins depuis une semaine. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. Merci Shora Makaremi, anthropologue chargée de recherche CNRS à l'IRI, spécialiste de l'Iran. Vous avez fait paraître Femme, vie, liberté, écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran, paru aux éditions La Découverte et qui a obtenu le prix de l'essai France Culture et d'Arte. Merci beaucoup. Ainsi qu'à vous Amine Mogadam, chercheur à l'Université métropolitaine de Toronto, à la chaire d'excellence en migration et intégration. Vous étiez en duplex de France Bleu Provence. Je salue Juliette Delperroux à la technique. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture. la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et la presse internationale se fait l'écho de deux démissions surprises dans le monde politique. Tout d'abord, Catherine, celle du président du Vietnam.
Vo Van Chuang, emporté par une vague anti-corruption, tout comme son prédécesseur. Et cela montre les difficultés du Parti communiste, qui dirige d'une main de fer le Vietnam et ses 104 millions d'habitants, à faire face à la corruption endémique dans un pays en croissance rapide, souligne le magazine The Diplomat et la BBC. Car ce n'est pas dans la presse vietnamienne que l'on trouve écrit explicitement le mot de corruption, non. Le journal Thuy Tre, Vien Express, en ligne, ou bien La Voix du Vietnam, radio du gouvernement, ne font qu'évoquer de manière cryptique des manquements, des infractions aux règles du parti qui ont nui à sa réputation en étant mal vu de l'opinion publique. Le Parlement vietnamien a approuvé ce matin, poursuit le journal Thuy Tre, cette démission surprise du président Vo Van Chuang après seulement une année de mandat. À 54 ans, il quitte aussi ses fonctions au sein du Politburo et au sein du Conseil de défense et de sécurité, précise en ligne Vienne Express. C'est donc dans la presse libre à l'étranger que les choses sont clairement expliqué. La BBC lève ainsi le voile. Le président vietnamien aurait démissionné en raison de ses liens avec un scandale de corruption dans sa province d'origine, Vinh Long, dans le sud du Vietnam, alors qu'il avait été nommé l'an dernier pour remplacer donc un autre président contraint lui aussi de démissionner à cause de la corruption, rappelle le média public britannique. Et la Frankfurter Allgemeine Zeitung en Allemagne se souvient que lors de son investiture à 53 ans l'an dernier, Vo Van Chuang, le plus jeune président de l'histoire du Vietnam, avait promis de lutter contre la corruption dans le pays. Le président est l'un des quatre piliers de la politique vietnamienne, avec le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et surtout le secrétaire général du Parti communiste, le poste le plus puissant du Vietnam, insiste la BBC.
Et le Parti communiste vietnamien mène une purge anti-corruption dans le pays.
Oui, l'un des hommes les plus riches du Vietnam, à la tête d'un empire immobilier, est actuellement jugé et risque la peine de mort pour fraude bancaire de 12 milliards de dollars. Et ces opérations anti-corruption pourraient, selon la BBC et The Diplomat, être l'occasion d'écarter des rivaux au sein du Parti communiste, avec pour conséquence aussi de miner la confiance des investisseurs étrangers dont dépend le Vietnam pour maintenir son impressionnante croissance économique. Le pays joue également un rôle clé dans la guerre diplomatique et économique entre la Chine et les États-Unis, note The Diplomat, magazine spécialisé dans la région Asie-Pacifique. Selon lui, le Vietnam se présente comme une terre d'accueil idéale pour les entreprises et les industries qui cherchent à déplacer leur chaîne d'approvisionnement hors de Chine. L'an dernier, d'ailleurs, le Vietnam a été le seul pays à recevoir à la fois le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en visite d'État. Le Vietnam, aujourd'hui courtisé par tout le monde, confirme la BBC. Ici, 18 accords de libre-échange signés, notamment pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement ou la lutte contre le changement climatique. Le Vietnam, l'un des 5 États communistes à parti unique qui subsistent dans le monde, répression de tous les opposants politiques. Les partisans de la ligne dure au sein du parti craignent, d'après la BBC, que les États-Unis n'encouragent le sentiment pro-démocratique au Vietnam et ne menacent le monopole du parti au pouvoir.
Et puis une autre démission surprise, celle du Premier ministre irlandais hier.
Pour des raisons personnel et politique. Léo Varadkar ne veut plus diriger la coalition de centre-droit à Dublin. En juin 2017, alors âgé de 38 ans, il était devenu le plus jeune Taoiseach, le plus jeune Premier ministre que ce pays de 5 millions d'habitants ait jamais connu. Léo Varadkar a surpris tout le monde hier, reconnaît The Irish Examiner en expliquant sur les marches du gouvernement vouloir tourner la page du pouvoir.
It has been the most fulfilling time of my life. Working with colleagues, I've had the honor of helping to lead Ireland from unemployment to full employment.
Ce fut la période la plus enrichissante de ma vie. Avec mes collègues, j'ai eu l'honneur d'aider l'Irlande à passer du chômage au plein emploi, de l'austérité à la prospérité, à traverser aussi une pandémie et le Brexit, a déclaré Léo Varadkar dans une allocution relayée notamment par The Irish Independent et la BBC. Le Premier ministre sortant a également dit sa fierté d'avoir fait avancer les droits des femmes avec l'avortement légalisé et ceux de la communauté LGBT. Léo Varadkar applaudit et visiblement ému, lui, fils d'un médecin indien et d'une infirmière irlandaise, ouvertement homosexuel, souligne la BBC, il avait incarné la modernisation du pays. Mais après toutes ces années, le lion Léo n'est plus le roi de la jungle politique. Il a perdu son mojo, titre The Irish Independent. Son départ intervient après la débâcle du référendum du 8 mars pour moderniser la constitution de 1937 en modifiant les références aux femmes et à la famille. Son parti est également accusé, note The Irish Times, de ne pas avoir pris à bras-le-corps la question de la politique migratoire, alors que l'Irlande a accueilli 100 000 réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, il faut penser à la succession de Léo Varadkar. Simon Harris, 37 ans, ministre de l'enseignement supérieur, est le grand favori, selon The Irish Independent et la BBC, ou encore la ministre de la Protection sociale, Heather Humphreys. Le roi Léo est mort, vive le roi, écrit The Irish Independent, ou la reine.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.